avec Georges Steiner par Laure Adler. Quatrième émission avec vous, Georges Steiner. Vous avez commencé cette semaine à évoquer votre adolescence tourmentée. Lundi, mardi, à parler des conséquences qu'eut sur vous ce travail dans ce journal si éminent, The Economist, et votre rencontre avec Oppenheimer. Hier, vous nous avez parlé des babils de Babel et des babils du sexe. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, que nous parlions de la question juive. Cette question juive, elle a hanté toute votre vie. On en a parlé au cours de la première émission. Vous aviez écrit un texte qui était une lettre à Elie Wiesel où vous disiez « Je suis un survivant, je reviens de loin et je n'en reviens pas ». Ressentez-vous encore cette culpabilité-là ?
Certainement. D'abord, la culpabilité psychologique de celui qui, par hasard, par pur hasard, a échappé au destin qui l'attendait, de tous mes condisciples juifs à Chanson de Sailly, etc. Mais pourquoi suis-je ici avec vous, Laure, ou à Cambridge, ou à Harvard, et non pas à Jérusalem ? Question capitale. J'ai dit hier que j'ai un dédain cuisant pour les zionistes salons, qui font du zionisme sans jamais vouloir mettre les pieds là-bas. La seule fois que j'ai eu le privilège énorme de rencontrer Ben Gurion, il n'y avait que quelques moments entre nous, il m'a dit « Il n'y a qu'une chose qui compte, envoyez-moi vos enfants ». C'est une phrase qui a été très importante pour moi.
Ce que vous n'avez pas fait.
Je ne l'ai pas fait. Et je suis, au fond, anti-zioniste. Essayons de définir ça. Et tout ce que je vais dire maintenant, Laure, on va le mécomprendre, on va le mé... Pendant plusieurs milliers d'années, à partir à peu près de la chute du Grand Temple à Jérusalem, les Juifs n'avaient pas la puissance de maltraiter, de torturer, d'exproprier qui que ce soit au monde. C'est pour moi la plus grande aristocratie qui soit. Quand on me présente un duc anglais, je me dis silencieusement, la très haute noblesse, c'est d'avoir appartenu à un peuple qui jamais n'a humilié un autre, ni torturé un autre. Israël, nécessairement, si je pouvais souligner 15 fois, et répéter 20 fois, nécessairement, inévitablement, inéluctablement, pour survivre, doit tuer, doit torturer, doit se comporter comme le reste de l'humanité dite normale. Eh bien, je suis d'un snobisme éthique sans fin, d'une arrogance éthique totale, ils m'ont enlevé ce titre de noblesse. Second à nul autre. Second à nul. Israël est une nation entre les nations, armée jusqu'aux dents. Et lorsqu'on voit du haut du mur la longue, longue queue des travailleurs palestiniens qui essayent de rejoindre leur job quotidien, dans la chaleur blanche, lorsqu'on voit l'inévitablement l'humiliation des êtres humains dans cette queue, je me dis, c'est un haut prix à payer. À quoi me répond l'Israël ? Taisez-vous, idiots, venez ici, vivez avec nous, partagez notre danger, nous sommes le seul pays qui va recevoir vos enfants si ils doivent s'enfuir. Alors de quel droit est-ce que vous nous faites des jolies fables morales ? Et je n'ai pas de réponse. Pour vraiment répondre, il faudrait que j'y sois, que je sois au coin des rues à faire mon petit laïus absurde, que je vive les risques du quotidien là-bas. Puisque je ne le fais pas, je ne peux qu'expliquer quelle est ma conception d'une certaine mission juive. C'est d'être les invités parmi les hommes. Et paradoxe encore plus grave qui vraiment me met la marque de Caïn sur le front, ce qui m'a lancé dans cette direction, c'est remarque de Heidegger, je vous en prie, qui dit « nous sommes les invités de la vie ». Heidegger a trouvé cette phrase extraordinaire, « ni vous ni moi, alors, nous n'avons pu choisir le lieu de notre naissance, les circonstances, le moment dans l'histoire où nous sommes nés, l'handicap dont nous avons parlé ou non, nous sommes « geworfen », dit l'allemand, « jetés dans la vie ». Et celui qui est jeté dans la vie doit à la vie, à mon sens, l'obligation de se comporter comme invité. Que doit faire l'invité? Il doit vivre parmi les hommes où qu'il soit. Et un bon invité, un invité méritoire, laisse le logis où il a été hôte un peu plus propre, un peu plus beau, un peu plus intéressant qu'il ne l'a trouvé. Et s'il doit partir, il fait ses bagages et il part. Je n'ai vu aucune partie du monde qui ne soit passionnante, qui ne vaille la peine qu'on en apprenne le langage, qu'on en apprenne la culture, qu'on essaye d'y faire quelque chose d'intéressant. Le monde est d'une richesse infinie. Si les hommes ne vont pas apprendre à être les invités les uns des autres, nous allons nous détruire. Nous allons vers des guerres religieuses, des guerres raciales terribles. Malraux l'a vu venir avec une clarté éblouissante. Il faut apprendre quelles sont les difficultés. Oui, on peut vous donner un coup de pied au cul et vous mettre à la porte, c'est très désagréable, mais ce n'est pas la pire des choses. Et j'ai, ne m'en voulez pas, j'ai l'arrogance impardonnable, soulignée de nouveau 5 fois, de me dire si demain je dois recommencer, pas 80 ans, voilà, mais pendant toute ma vie, et j'ai souvent recommencé, si on m'envoie à Jakarta, d'abord j'apprends la langue, ça me ferait un bien énorme, je suis devenu paresseux comme un vieux bourrigou. C'est une chose merveilleuse d'apprendre une nouvelle langue, c'est ouvrir la fenêtre sur l'être. Deuxièmement, le premier poste serait minable. Peut-être dans un supermarché, je ne sais pas, gardien de nuit. Et voilà mon arrogance. Je crois que le deuxième poste serait déjà beaucoup meilleur et plus intéressant. Et il y aurait des choses passionnantes à faire. Permettez-moi de raconter de nouveau, je raconte trop d'histoires, mais l'anecdote contient souvent l'essence d'une vie. Je suis dans mon soi-disant bureau à Beijing, le premier jour à Pékin, et la table avait 3 jambes, un programme aussi élégant, aussi civilisé, aussi humain que le vôtre ne me permet pas de vous dire quelle était l'odeur dans cette chambre, parce que les latrines étaient en bas. La soi-disant machine à écrire, la moitié du clavier manquait, et je me suis dit, ça n'ira pas, je peux pas. Textuellement, on frappe à la porte, un étudiant chinois me dit, est-ce qu'il y a quelque chose à préparer pour le début de votre séminaire? Les textes, qu'allons-nous? Et en 30 secondes, j'étais chez moi. Je me suis dit, pauvre crétin, qu'est-ce qui t'inquiète? Tu pourrais être à Harvard, à Oxford, en Sorbonne, dans la rue d'Ulm. Quel texte préparons-nous? Tu es chez toi et j'étais chez moi. La franc-maçonnerie de l'enseignement, la franc-maçonnerie de l'amour, de la culture, de la musique, des arts, des sciences, la franc-maçonnerie de ceux qui veulent apprendre ensemble, mais elle est universelle, et pas besoin de hurler « Où suis-je? Que dois-je faire ?» Au contraire, le privilège. Et alors, ce qui est un peu devenu le shibboleth de ma vie, les arbres, et j'aime les arbres ont des racines, moi j'ai des jambes, et c'est un progrès immense. Ce sont des années-lumière. L'arbre peut, hélas, être abattu par la hache et par la foudre. Avec les jambes, on peut s'enfuir. On peut être pèlerin sur la terre. Et je crois que dans la diaspora, le mot pour le juif en exil, la diaspora, je crois que la tâche du juif, c'est d'apprendre à être l'invité des autres hommes et des autres femmes. Et que Israël n'est pas la seule solution possible, et ce à quoi on ne peut littéralement pas penser, et ça va nous amener, je crains, ça va même vous amener, ce que je vais dire, une rage terrible que je comprends, si l'inimaginable arrivait, si Israël sombrait, le judaïsme survivrait. Il est beaucoup plus grand qu'Israël. San Francisco, New York, Chicago, aujourd'hui, il y a un judaïsme de génie, de création. L'histoire continue passionnément. Il y a là un grand mystère. Il est possible, quoi que ce soit aussi inconcevable, que les choses craquent, mettons un jour aux États-Unis. On peut s'imaginer des circonstances très dangereuses, très difficiles. Bien, on se mettra de nouveau en route. C'est merveilleux d'être un étranger, d'être un peu un pèlerin sur la terre. C'est un très grand privilège. Et si j'ai choisi celui-là, il impose beaucoup de dangers, beaucoup de tâches difficiles, mais c'est ma seule raison pour dire à Israël, j'ai pas eu le courage de devenir un nationaliste sioniste qu'il faut devenir. Et ceux qui ont adopté la vie en Israël et qui tous les jours font des miracles, mais ce sont des miracles de survie. Et moi, j'ai cette utopie, j'ai ce rêve qu'il y a quelque chose d'autre à faire.
Pourquoi adoptez-vous l'attitude du juif errant? Parce que à travers cette appellation « Les invités de la vie », vous reprenez cette image du juif errant. Et remettez-vous en cause l'existence de l'État d'Israël?
Non, je ne le remets pas en cause. C'était le miracle nécessaire à la survie d'une partie du peuple juif. Mais je n'ose croire que c'est la seule solution, comme je viens de le dire. Et dans l'errance, je vois un très très beau destin. Errer parmi les hommes, c'est leur rendre visite.
Vous abordez dans votre œuvre la Shoah de différentes façons. Vous évoquez à plusieurs reprises l'attitude de ces rabbins qui, dans les camps d'extermination, continuaient à prier Dieu.
Mais infiniment, c'est là. Le mystère de l'excellence intellectuelle juive, et il ne faut pas être hypocrite, le pourcentage de Nobel en sciences est écrasant.
Vous voulez dire de Nobel juifs, d'origine
juive? Oui, mais bien
juive.
Sûr, il y a des domaines où il n'y en a presque pas d'autres. La création du roman moderne américain, par Roth et par Heller et par des générations, n'est-ce pas? Par Bellow, par Salinger, par un après l'autre. Les sciences, les mathématiques, les médias. Pravda a été édité par des juifs aussi. Est-ce qu'il y a là le fruit de la pression terrible du danger? Est-ce que le danger est le père de l'invention et de la création? J'ose le croire souvent. Est-ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est la seule religion, la seule sur la planète, où il y a une prière spéciale, un bris ça s'appelle, pour les familles dont les enfants sont des savants. C'est la seule religion qui est cette prière. Ça me remplit d'une joie folle et d'un orgueil fou. J'ai maintenant, et j'en crois pas le miracle, j'ai un fils qui est doyen d'un des très grands collèges de New York, une fille qui est directrice des sciences de l'Antiquité à Columbia, un beau-fils qui enseigne la littérature romaine à Princeton. C'était mon rêve, c'était que nous sommes peut-être un tout petit peu spécialement doués pour l'idéal de l'esprit, de la pensée abstraite. Il y a un destin qui est celui d'aimer la connaissance, la pensée, les arts. Tous les hommes et les femmes le partagent, je le sais, mais ce petit peuple, tout petit, presque éliminé plusieurs fois dans l'histoire, et qui survit, qui est encore là. Grand Dieu que les Grecs anciens étaient talentueux, grand Dieu que les Romains étaient magnifiquement équipés, rien n'a survécu, rien. Et voilà ce petit peuple, tellement détesté, tellement craint, tellement pourchassé, il est encore là. Et très difficile, personne n'a une bonne explication, c'est souvent la blague antisémite qui contient le germe de la vérité. Hegel raconte, Dieu vient, et dans la main droite il a les textes sacrés de la révélation et de la promesse du paradis. Dans la main gauche il a le journal de Berlin, des Berliner Gazette. Le juif choisit le journal. Et cette blague antisémite de Hegel contient une profonde vérité. Le juif se passionne pour le ductus, le courant intérieur de l'histoire et du temps, à un point extraordinaire. Et si le XXe siècle, avec l'exception magnifique de Darwin, bien sûr, si c'est le siècle de Karl Marx, de Sigmund Freud, d'Einstein, ce n'est pas peut-être entièrement un accident. C'est tout ce que j'ose évoquer.
Je repose la question, Georges Steiner, à propos de ces rabbins qui priaient dans le camp. Est-ce que vous pensez qu'ils priaient Dieu parce qu'ils pensaient que ces camps étaient les antichambres de la maison divine?
Ça, je ne peux pas répondre. Je peux répondre à ceux qui étaient désignés comme livres vivants, c'est-à-dire que les autres prisonniers, les autres victimes venaient les consulter parce que ces hommes savaient par cœur des milliers de pages, par cœur, inclus la Torah et le Talmud plus ou moins entiers. Ah, la page telle et telle, le verset, par cœur. Et être livre vivant, qu'on peut feuilleter comme si on pouvait feuilleter l'âme humaine, ce n'est pas une petite chose, c'est même une grande gloire.
Vous êtes assez dur vis-à-vis des Juifs américains. Vous dites, dans un de vos livres, « En Amérique, les Juifs s'éveillent la nuit pour écouter le retour de leurs enfants, mais c'est simplement pour s'assurer que la voiture est bien rentrée au garage, et non parce que... Tout d'un coup, la foule antisémite peut crier dans la rue. »
Mais ce n'est pas une critique. Je dis ça avec infinie reconnaissance. Mes enfants et petits-enfants sont là-bas et je voulais qu'ils y aillent. Parce que, en ce moment, l'escalateur de l'histoire pour le juif en Amérique va vers le haut. C'est une poussée extraordinaire. Quand je suis entré, il y avait toujours des numerus clausus à Harvard, à Yale, à Princeton. Si vous m'aviez dit qu'en quelques années, les présidents de toutes ces universités seraient des juifs, et que les chaires en littérature, qui étaient exclues pour des juifs, il y avait un magnifique snobisme pour dire « vous êtes des outsiders, des externes ». Maintenant, ça n'existe plus. La dernière fois que j'ai eu le privilège d'assister à une séance des membres permanents de l'Institut à Princeton, il s'agissait de remplacer un très grand mathématicien, logicien d'échelle mondiale. Et on proposait des noms divers. Et Oppenheimer frappe sur la table avec sa pipe, c'est une chose qui veut dire, quand il en avait marre, quand il devenait impatient, m'a dit, « Messieurs, je vous en prie, par tact politique, essayez de proposer un nom qui ne soit pas juif. » Et il n'y en avait pas. À cette échelle-là, d'éminence planétaire, et on considérait des candidats russes aussi. Aujourd'hui, je crois qu'il y aurait certains Japonais, et je crois que demain, il y aura les hommes et les femmes, je souligne, des Indes. Dans les dernières années, là où je vais partout dans les universités, il y a un grand mouvement de changement. l'étudiant juif n'est plus nécessairement premier de promotion ni deuxième de promotion. C'est l'étudiant qui vient de Chine ou des Indes, dans les disciplines traditionnelles comme la logique pure, les mathématiques, la physique théorique, etc. Il y aura maintenant des nouvelles vagues très, très importantes.
Pour vous, George Steiner, être juif, cela veut dire appartenir au peuple du livre et vouloir étudier. Ce n'est pas une race, c'est un désir d'apprendre.
Je comprends rien à l'histoire de race, c'est de la mauvaise blague, mais c'est appartenir à cette tradition millénaire et millénaire du respect pour la vie de l'esprit, du respect infini pour le livre, pour le texte, et c'est se dire que le bagage doit toujours être prêt, qu'il faut toujours que la valise soit faite. Je répète, sans se plaindre, sans hurler qu'il y a là une injustice cosmique. Non, il y a aussi un grand privilège. N'oubliez pas alors, nous l'oublions tout le temps. En grec ancien, le mot pour hôte, pour l'invité, et le mot pour l'étranger, c'est le même mot, xénos. Et si vous me demandiez de définir notre condition tragique, je réponds tout de suite, le mot xénophobie, survie, il est pleinement d'usage, tout le monde comprend. Le mot xénophilie a disparu. Et c'est par ça que je voudrais définir la crise de notre condition.
Vous êtes un traqueur de sens, George Steiner, et je crois que dans cette valise qu'il faut à chaque fois tenir ouverte, avec la possibilité de partir, non peut-être pas pour fuir, mais pour reconstruire une autre vie ailleurs, dans cette valise, il y a peut-être la Bible. Cette Bible que vous connaissez par cœur, cette Bible sur laquelle vous avez écrit, et cette Bible porteuse d'énigmes. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler de ce passage de la Bible où Yahvé se tient face à Moïse, et où Yahvé intime l'ordre à Moïse de tourner le dos et de se coller contre l'anfractuosité du rocher, parce que vous y trouvez une signification.
La Bible, l'or, est pleine, pleine d'anthropomorphisme tout à fait primitif et archaïque. On peut faire une, et ça a été fait, une anthologie des horreurs, des folies de la Bible. Le livre de Josué est à peu près illisible du point de vue de haine raciste, de haine militante, etc. Il y a tout dans la Bible. Mais maintenant, je vais risquer le ridicule total. Je suis pas religieux, je suis probablement voltairien, au point profond, mon père l'était aussi, mais je ne comprends pas comment sont venus à nous certains textes dans la Bible. Je n'arrive pas, permettez-moi de parler doucement, parce que ça doit être une précision absolue, je n'arrive pas comment a été imaginé, dit, écrit les discours de Dieu dans le livre de Job et certains passages dans l'Ecclésiaste et bon nombre des psaumes. Je ne comprends pas. Si on me dit qu'il y avait là un monsieur qui attendait son déjeuner ou qui allait prendre le thé après avoir écrit les discours de Dieu dans Job, il n'y a pas d'alternative. Un homme ou une femme ou un homme, ont dû composer ça, mais je comprends pas. Et j'envie les fondamentalistes pour lesquels le problème se pose pas, pour lesquels c'est une dictée de la voix de Dieu. Je sais que c'est totalement absurde, mais je n'arrive pas à donner une analyse rationnelle, cognitive, une explication de texte de la moindre valeur pour un certain nombre de textes. Aussi, dans le Nouveau Testament, les chapitres 9 à 12 de la lettre aux Romains de Saint Paul le plus grand journaliste juif dans l'histoire du journalisme juif, qui est une merveilleuse histoire, Saint Paul, chaque phrase de ces 3 ou 4 livres a donné lieu à des milliers et des milliers d'interprétations totalement inépuisable, qui renouvelle à chaque fois la problématique de la présence humaine sur la Terre, il a dicté ça, alors je me tais, parce que, à nouveau, le fondamentaliste qui me dit non, non, il y avait l'inspiration divine, comme pour Saint Jean de Patmos, c'est la voix de Dieu qui parle. Heidegger, que je cite trop souvent, mais il aide beaucoup ce titan méchant, cette brute géante. Heidegger.
Cet antisémite notoire.
Oui, aussi, dont tous les élèves doctorants étaient juifs. À commencer par sa maîtresse Hannah Arendt, et puis Marcuse, et puis Levitt, sur 12 doctorats faits sur Heidegger, il y avait 7 juifs. Alors, bon, notre liminaire. Heidegger dit, il y avait un moment, au début de la langue humaine, où elle était en relation immédiate avec certaines forces, qu'il appelle les forces de l'être, de l'immédiat. Mais c'est de la blague. Un philologue vous dira, mais taisez-vous, on ne raconte pas des balivernes comme ça. Les langues humaines sont un produit neurochimique, je ne sais pas quoi, quoi qu'on comprend très mal, et il n'y a jamais eu une période de contact direct avec les mystères de l'être. Alors, je préfère cette non-explication mystique, elle m'aide à vivre certains textes. Et la Bible est totalement inépuisable dans ses parties historiques aussi. On reprend parfois un passage. Prenez la visite de Saül à Andorre, à la vieille sorcière d'Andorre, et qui se termine, lui et son aide-de-camp militaire, après qu'elle lui prédit la catastrophe et la mort. Le texte est simple, et ils disparurent dans la nuit. Et depuis ce moment, nous avons Macbeth et nous avons la littérature en Occident. Ils disparurent dans la nuit. Et chaque fois que je reprends un épisode, je dis, mais il y a du nouveau. Et il y a une telle richesse dans le document. Et une des grandes tristesses dans notre éducation actuelle, que je définis comme l'amnésie planifiée, c'est ça l'éducation aujourd'hui. La Bible est de moins en moins connue, lue, où elle est enseignée comme catéchisme, ce qui est la pire des choses, bien sûr, et on oublie à quel point nous sommes les enfants de ce texte dans l'histoire de l'Occident.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2008 entre Laure Adler et Georges Steiner, récemment disparus. À voix nue, réalisation Nathalie Sall, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.